Donc cette table ronde va être conçue comme une table ronde pour une fois. C'est-à-dire que nous avons préparé un certain nombre de thématiques. Donc je vais poser un certain nombre de questions aux personnes ici présentes. Je vais vous les présenter rapidement d'abord. Il ne va pas y avoir d'exposé détaillé sur chaque action menée. Vous avez dans vos dossiers quelques présentations. Il y a aussi des flyers à l'extérieur. Donc si vous voulez voir un peu plus en détail ce que chacun fait, vous avez ces documents-là, ce qui ne vous empêchera pas tout à l'heure aussi de poser des questions, bien évidemment. Alors, j'ai à ma droite Jasmine Chen, qui est la directrice de la bibliothèque de Guebwiller, dans laquelle, alors, chaque participant à la table ronde, en fait, est là pour une raison, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne répondront pas à différentes questions, mais nous avons demandé à la bibliothèque municipale de Guebwiller de venir, notamment pour son expérience dans le domaine des cours d'informatique, donc des ateliers qui sont mis en place depuis 2 ans, je crois.
Hein, c'est ça. 2 ans. Oui.
Voilà. Franck Hérault, que vous avez vu ce matin, qui donc est à la médiathèque de Strasbourg, s'occupe des questions numériques sur des aspects...
La médiation.
Sur la médiation, voilà. Et qui donc remplace au pied levé Florence Billot. La question qui était plus posée à Strasbourg, mais ça l'empêchera pas là aussi d'évoquer d'autres aspects, était notamment la formation de formateurs qui a pu être mise en place pour les personnels qui s'occupent des ateliers numériques. À ma gauche, c'est Géraldine Farage, qui est responsable du Shadoc, qui a été évoqué très rapidement ce matin, qui va ouvrir l'année prochaine. C'est ça. Donc, qui est un espace de type Fab Lab, on peut dire ça.
Beaucoup plus large.
Plus large, donc elle pourra nous donner un peu plus de détails. Et elle est là notamment en tant que partenaire de la médiathèque de Strasbourg pour les actions qui sont menées dans ce domaine-là. À ses côtés, Véronique Leport, qui est la directrice du réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est un gros réseau de médiathèques en région parisienne, et qui est là notamment pour l'expérience de e-médiathèque qui a été lancée il y a déjà quelques temps. Un an, voilà. Et sur cette e-médiathèque, il y a notamment des propositions de formation à distance. Donc c'est aussi cet aspect qui nous intéressait. Et puis, à ses côtés, Pascal Thibault, qui est le directeur de la médiathèque de Quimperlé, médiathèque, qui est notamment connue pour tout le travail qui est fait en collaboration avec les usagers, donc les actions de médiation qui sont menées avec l'aide des usagers. Sachant que le fil conducteur de cette table ronde, comme vous avez dû le voir, est tout ce qui concerne plutôt la formation via le numérique. On a choisi cet axe-là, mais bon, il y aura peut-être certaines choses qui seront évoquées de façon un petit peu plus large. Alors, la première question qui est une question assez large, qui a été déjà évoquée une série de fois au cours de la journée, qui est en fait, quel est le rôle que peuvent ou que doivent jouer les bibliothèques, à votre avis, ici présent, dans le domaine du numérique? Et d'ailleurs, je vais directement enclencher sur la question complémentaire, qui est en fait, est-ce qu'il y a des limites à ça? Et est-ce qu'éventuellement, il y a des limites qu'on doit franchir par rapport à notre rôle traditionnel pour pouvoir remplir ce rôle vis-à-vis du numérique. Pascal ?
Je pense que c'était pour moi. bon, je ne vais pas reprendre tout. En fait, tout a déjà été dit ce matin, hein, puisque la première question, quel est le rôle que doivent ou que peuvent jouer les bibliothèques ? Moi, j'en vois 3, pour synthétiser un peu ce qu'on a vu ce matin. D'abord, la première, en tout cas pour nous à Quimperlé, c'est parce que c'est dans nos missions. Dans nos missions. Notre mission première, elle n'est pas sur le livre, elle est vraiment sur l'échange de savoir, l'accès au savoir et à la création. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont numériques, donc aujourd'hui, le savoir, il passe par Internet. Donc, si on veut remplir nos missions, il faut donner accès aux tuyaux. Donc, c'est vraiment dans nos missions. C'est vraiment quelque chose d'important, puisque c'est le déclic, en tout cas, nous, ça a été le déclic pour l'équipe. Dès lors que chacun dans l'équipe a accepté que c'était dans ses missions, vraiment, eh bien, il n'y a plus du tout de problème. Okay. Le deuxième point, on est service public, donc ça a été dit plusieurs fois, lutter contre les inégalités. Donc là, on est en plein dedans. Le numérique, aujourd'hui, il fracture plutôt la société. Donc on est là un peu pour compenser. Le troisième point, qui n'a peut-être pas été évoqué, moi je dirais que la bibliothèque est un lieu vraiment stratégique. C'est-à-dire qu'en dehors de nos missions, du domaine du service public, aujourd'hui, si je veux faire dans une commune, que je sois une société ou un individu privé, faire des cours informatiques, où est-ce que je vais le faire? Si je le fais dans un centre social, j'aurai qu'un certain type de public. Si je le fais dans la maison des associations, pareil, ce sera qu'un seul type de public. La bibliothèque, c'est un lieu quand même super attractif, stratégique. On y croise toutes les populations. Voilà, bon, ça a été dit plein de fois. Les limites à franchir, ben oui, il y en a. Une des premières, je dirais, c'est le problème de la compétence. Bon, la première, je l'ai évoquée, hein, c'est la mission. Parce que ça revient souvent, c'est pas ma mission, c'est pas mon rôle. Enfin, au départ, c'est quand même la première frontière. La deuxième, eh bien, je dirais, c'est les compétences. Il faut accepter de ne pas tout savoir. Et puis, voilà, il faut accepter de franchir ces limites-là. D'autres limites, les limites matérielles. C'est vrai que les locaux, on est aussi tributaire dans les bibliothèques de locaux qui ne sont pas forcément adaptés. Donc il faut accepter de pouvoir tout démonter. Nous, pour les installs parties, peut-être que j'évoquerai ça plus loin, il faut tout démonter dans la bibliothèque. On a aussi des systèmes informatiques qui sont sous Windows. Il faut accepter de franchir le cap. Il faut peut-être aller vers le libre. On a acheté un Macintosh. On a aussi des systèmes informatiques qui sont très verrouillés. Bon, par exemple, pour l'install party, plutôt que de lutter contre le service informatique, on tend un câble et on va chez la fleuriste. Et on a accès Internet, finalement, sans... Voilà, c'est un peu du bricolage, mais voilà des limites qu'il faut toujours franchir, en fait. Et puis une aussi, je trouve que c'est très lié à notre profession et puis aussi lié à ce qu'on aime faire. On aime beaucoup formaliser, on aime beaucoup offrir la même offre à tout le monde. Et souvent, avec le numérique, justement, il faut faire du cas par cas. Ouais. Et, voilà. Et ça, c'est aussi une petite limite à franchir. Il faut accepter de faire du cas par cas et de s'adapter à chaque demande. Ouais. Voilà.
C'est ce que disait effectivement Judith tout à l'heure, le cas par cas. Est-ce que quelqu'un d'autre veut compléter, Jasmine?
Ben, je vais peut-être compléter sur l'aspect limité compétences avec un exemple très précis. On a beaucoup parlé de Pôle emploi et de partenariat. Donc effectivement, nous avons été très sollicités par des demandeurs d'emploi qui viennent soit dans le cadre de ce qu'on a mis en place les jeudis de l'informatique qui sont un accueil individuel, mais nous sommes aussi très sollicités pendant les heures d'ouverture au public. Et se poser la question de jusqu'où peut-on aller lorsqu'une personne nous sollicite pour rédiger un CV. S'il s'agit de mise en forme ou s'il s'agit de relecture, de correction, oui. Après, la compétence rédiger un CV est plutôt du domaine de Pôle emploi. Il y a des formations au sein de Pôle emploi qui sont vraiment ciblés avec des professionnels. Donc nous nous sommes mis en relation avec Pôle emploi pour avoir toutes les informations par rapport aux formations qui sont proposées, de manière à pouvoir relayer ces informations auprès de nos usagers. Et là, je crois qu'on est vraiment aussi dans notre cœur de métier, tout simplement relayer les informations et renvoyer vers les professionnels.
Merci. Alors, ce matin, je crois que c'est Christophe notamment qui a évoqué la question des apprentissages informels. Est-ce que la médiathèque, c'est un lieu où on peut apprendre autrement qu'ailleurs?
Oui, j'espère. oui, je suis persuadée parce que bon, d'abord, on est dans un cycle... qui est faire société. Voilà, ça, c'est le terme qu'emploie la BPI. Le numérique s'y prête bien. C'est-à-dire qu'on fait, on essaie, en tout cas nous, à Quimperlé, de faire avec. Voilà, on fait ensemble les formations. Il n'y a pas de partie théorique. Il faut tout de suite que les gens, que les usagers qui participent puissent expérimenter. En fait, c'est plus de l'accompagnement. C'est une manière d'apprendre un peu autrement aussi, puisque... Il y a ces formations, mais il y a aussi, les gens vont revenir régulièrement à la bibliothèque. Nous, les accès sont libres et gratuits, donc ça permet aussi d'apprendre gratuitement et de tester, de continuer à apprendre différemment. Je trouve aussi qu'on apprend différemment, parce qu'une des choses intéressantes avec le numérique aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas le numérique d'un côté et le physique de l'autre, mais on voit qu'il y a une continuité. Et la bibliothèque est le lieu vraiment très intéressant dans le cadre d'une formation, d'une initiation pour rendre sensible cette continuité. On a les collections, donc on peut tout à fait faire le... les bibliothécaires font le lien entre, au moment de l'initiation, entre ce qui est du numérique, et il y a les collections à côté. Voilà, donc ça permet d'apprendre autrement. À Quimperlé, tout à l'heure tu l'as évoqué, nous on inclut les savoir-faire des usagers, donc ça permet d'apprendre autrement, puisque du coup le bibliothécaire est celui qui met en relation en fait des personnes qui ont des choses à partager. Voilà.
Alors, question sur quand vous décidez les uns et les autres de mettre en place une offre autour du numérique, différentes offres qui sont proposées par les uns et les autres ici, comment est-ce que c'est accueilli par vos décideurs ?
Moi, je vais répondre. À Saint-Quentin-en-Yvelines, nous avons eu la chance d'avoir une directrice de la culture qui a reposé tous les principes, qui a proposé de retravailler sur une politique culturelle globale et qui était fondée sur la nécessité que la culture soit l'outil qui permette à chacun de se former tout au long de sa vie pour comprendre le monde et contribuer à sa transformation. C'était notre cœur de cible. Donc évidemment, formation tout au long de la vie, ça valait aussi pour les théâtres, ça valait aussi pour le musée, c'est-à-dire comment les gens se servent de la culture autrement. Les médiathèques, on était évidemment en première ligne pour ça. Et donc c'est pour ça que ce qu'il a été décidé de faire, c'était de pas tellement, contrairement par exemple à ce que disait Judith, pas forcément se tourner d'abord vers les populations en difficulté, mais ajouter à notre offre classique de bibliothèque, à destination de tous nos publics, une offre de formation numérique, puisque il existe maintenant une palette très importante d'auto-formation, et ça c'est un moyen d'apprentissage un peu nouveau, disons plus facilement exploitable grâce au numérique, et qui permet à chacun de compléter ses compétences, pas forcément d'en acquérir des nouvelles, parce que l'auto-formation, il faut déjà avoir un certain niveau de connaissances et de pratiques pour savoir s'en servir, mais c'est une autre façon d'apprendre. Et donc le choix a été fait de prendre des abonnements à des services de formation en ligne que nous proposons gratuitement à tous nos adhérents. Donc à travers ce qu'on a appelé, créé, qui n'est plus un portail de médiathèque, mais qu'on a appelé la e-médiathèque, parce que c'est bien une médiathèque virtuelle avec des contenus en ligne accessibles 24 heures sur 24. L'idée, c'est qu'il y a cette offre de formation en ligne pour les gens autonomes, et notre travail, en plus de la mettre en œuvre, c'est de le faire savoir et d'accompagner ceux qui ne sont pas en capacité de l'utiliser seuls. Donc nous, on a eu la chance de ne pas avoir à impulser ça, mais l'impulsion a été donnée au niveau politique et on a trouvé ce mode de particulier.
Je vais peut-être poser la question plus directement à Géraldine sur la mise en place du Shadoc. En fait, qu'est-ce qui, du point de vue de la stratégie peut-être politique, ou qu'est-ce qui est à l'origine d'une décision comme la création d'un établissement comme celui-ci?
Alors le Shadoc, peut-être en deux mots expliquer ce projet. Donc c'est un projet de lieu porté en régie directe par la ville de Strasbourg. On est rattaché à la direction de la culture. Et donc c'est un projet qui a été écrit en transversalité dès le départ entre la direction de la culture et la direction du développement économique et de l'attractivité, qui est rattachée à la communauté urbaine de Strasbourg. Donc ce projet est déjà transversal, je dirais, dès sa naissance, avec un enjeu fort autour du numérique, qui est de dire on ne va pas se cantonner à un champ qui serait celui artistique ou culturel vis-à-vis du numérique, mais on s'intéresse plus largement à ce que, moi j'aime bien revenir à la notion de techné, donc à l'évolution technique de la cité. Et de se dire qu'une municipalité porte un projet comme celui-ci, ça fait sens, parce que finalement, nos usages à tous les citoyens, finalement, changent et évoluent en fonction des outils que l'on a en main. Et il s'agit d'ouvrir un lieu où tout un chacun pourra se faire un avis, non pas dans une position de consommation comme on l'a d'habitude, c'est souvent par rapport à l'achat, ou, enfin, voilà, mais plus dans une dimension de pédagogie, de se fonder un avis critique et de découvrir tout ce qu'on peut faire à travers ces outils. Donc ce projet est fondamentalement, je dirais, transverse. Donc on réunit à la fois des projets artistiques avec des équipes diverses et variées qui s'interrogent autour de ces outils. Ça peut être autour du spectacle vivant, des arts visuels, mais aussi du livre, de l'illustration. On a beaucoup travaillé avec Franck sur ces questions-là. On est également ouvert aux entreprises, aux start-up. Donc on a tout un volet de notre activité qui s'intéresse au développement économique, à comment permettre à des nouvelles applications de naître. Et pour ce faire, on a un certain nombre d'outils. Donc, par exemple, on a un Fab Lab, effectivement. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, un Fab Lab, c'est un espace de fabrication à partir de machines contrôlées par ordinateur. La plus connue, la plus médiatisée, c'est l'imprimante 3D. Mais il en existe plein d'autres que je vous invite à venir découvrir, bien sûr. On a également un espace de coworking. C'est un espace de travail partagé pour des personnes en freelance du type communication, graphiste, soit pour des personnes qui veulent démarrer leur entreprise. Donc, souvent des informaticiens, des développeurs, mais on a aussi des juristes. Et ces espaces sont animés par des associations partenaires, donc Azaz Digital pour le coworking, Avela pour le Fab Lab. Et l'équipe du Shadoc, donc qui est rattachée à la direction de la culture, a pour mission d'animer ce lieu, de l'ouvrir au plus grand nombre à travers une programmation assez riche. Donc on a des expositions, on a de la formation, on a des ateliers, on a des concerts, enfin on a plein de choses qui se profilent. Donc on ouvre effectivement l'année prochaine, mais on est déjà actif, on a une saison hors les murs, ce qui nous a permis notamment de beaucoup travailler en lien avec la médiathèque sur cette fameuse complémentarité. Moi, dans ce que j'entends aujourd'hui, c'est vrai que je viens déjà du secteur numérique à la base, mais plutôt associatif. Et c'est vrai que ça me fait tout de suite penser aux politiques qui avaient été menées de 1998 à 2008 avec le ministère de la Culture autour des espaces culture multimédia, qui déjà n'étaient pas forcément des médiathèques, ça pouvait être des associations comme notre structure. Il y en a eu beaucoup en France, les plus connus sont le Cube à Issy-les-Moulineaux, Zinc à Marseille, Kawenga qui a aujourd'hui disparu à Montpellier. Et ces espaces-là avaient déjà pour mission de dire ce n'est pas seulement l'outil et l'apprentissage à l'outil qui importe, mais également l'expression citoyenne derrière cet outil, et notamment l'expression par l'art, et d'associer des artistes à cette démarche-là. À la suite de la disparition du label Espace Culture Multimédia, beaucoup sont morts, ont disparu, d'autres avaient diversifié leur financement, ont continué. Et c'est là pour moi où se trouve la complémentarité. On la retrouve au niveau des espaces publics numériques également aujourd'hui en France. Donc c'est souvent rattaché à des médiathèques, c'est tout un réseau en France. Et je dirais que la complémentarité, elle se situe à questionner cette limite entre l'émission et le rôle des médiathèques, mais finalement pouvoir faire appel à des personnes extérieures quand tout touche à toutes les limites que vous évoquiez, notamment de matériel, de réseau, de faire appel à des compétences qu'on n'a pas forcément en interne. Et c'est bien tout ça qu'on teste aujourd'hui avec le Shadoc et la médiathèque, avec le réseau des médiathèques, je dirais, d'aller chercher des contenus qu'on n'aurait pas forcément par soi-même en médiathèque, que nous, on peut ramener et justifier plus facilement par nos axes de développement. Donc, par exemple, on a fait venir des entreprises à Malraux. On organise un petit peu des événements qui viennent questionner cette limite-là. Bon, je dirais qu'il y a cet axe-là. Et puis, je ne veux pas être trop longue, mais il y a tout un pan aussi par rapport à la formation et à l'animation. Aujourd'hui, on développe en lien avec la médiathèque un projet en dehors du territoire, c'est-à-dire en hors les murs. Le réseau des médiathèques vont ouvrir un nouvel espace dédié au numérique à la médiathèque de Haute-Pierre. Et nous, on accompagne à travers des partenariats avec des collèges, des structures de socioculturelles et d'éducation populaire, tout un projet qui permet d'aller vers l'insertion professionnelle des jeunes par le numérique. On a pour ce projet reçu un financement du Fonds d'expérimentation pour la jeunesse. Et ça, c'est peut-être des choses qui auraient été plus complexes à être montées directement par les médiathèques seules, finalement. Voilà.
Quelque chose à dire là-dessus, Franck ?
Elle a tout dit. Non, comment je peux compléter ça ? On travaille en partenariat. Moi, je suis arrivé il y a un an et demi à Strasbourg, et donc pour développer tout un travail autour de la médiation numérique. Moi, je suis un partisan convaincu de la mutualisation moyens, des énergies, etc. Donc moi, je pense qu'il faut absolument pas qu'on reste dans nos locaux. Je suis absolument ravi d'entendre ce que font les Idea Store avec Judith, notamment. On a des moyens parfois humains ou des moyens financiers en baisse. Il faut mutualiser, il faut faire ensemble. Je ne sais pas si je réponds correctement à la question là, sur le partenariat, mais je crois qu'on est, c'est vraiment intéressant quand on travaille ensemble. On est sur des mêmes problématiques. Nous, on amène notre facette, notre orientation, on va dire, lecture publique. Toi, tu as d'autres richesses. Quand on travaille avec Rodrigue au Centre de Culture Numérique, ou moi je suis allé voir aussi les gens de la Haute École des Arts du Rhin. L'idée c'est de développer à terme un ensemble de projets. Pourquoi aller réinventer la poudre à chaque fois alors qu'on a des acteurs sur le territoire qui savent le faire? Donc nous, je pense qu'on a déjà... je présenterai tout à l'heure le projet de formation qu'on va mener sur l'ensemble du réseau, mais on a déjà plein de choses à apprendre, quoi. Donc moi je rejoins ce que disait Judith, il faut qu'on s'associe, c'est vraiment important, quoi.
Peut-être juste parce que j'ai l'impression d'avoir peut-être omis l'élément principal de votre question, donc par rapport aux politiques, en fait. Donc c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir des élus qui portaient vraiment à bout de bras ce projet. Donc à l'époque, c'était Catherine Trottmann du côté du développement économique et Daniel Payot du côté de la culture. Et ils ont beaucoup défendu cette transversalité, je dirais, au sein de la collectivité. C'est ce qui fait toute la richesse de ce projet. Après, le fait de montrer aussi à nos élus des cas qui existent déjà, des lieux similaires, même si on se crée notre spécificité, ça aide toujours énormément, parce que ça rend vraiment les choses possibles, quelque part. On leur crée un imaginaire.
Le numérique, en fait, c'est une part de l'offre de services d'une bibliothèque. À l'heure actuelle, ça prend une part de plus en plus conséquente. Enfin, ça dépend encore des médiathèques. En fait, si on considère les différents outils qu'on peut avoir pour attirer les publics, les faire venir à la médiathèque, quelle est la part que va prendre le numérique? En quoi ça fait partie d'une stratégie de conquête de public?
À Quimperlé, en 2008, on a mis en place une stratégie de conquête des publics très large, qui est encore court, on va dire, et qui a porté ses fruits. Qui était donc toutes nos actions, y compris l'usage des réseaux sociaux, l'usage du numérique, des blogs et autres, a été vraiment axé vers la recherche de nouveaux publics qu'on a du mal à identifier en bibliothèque. Donc le numérique n'échappe pas à cette logique. Et donc nous permet d'accueillir un public différent. Alors on a d'abord passé une partie de notre temps à essayer d'identifier les publics potentiels, qui est quand même pas facile, les partenaires possibles. Donc aujourd'hui, on a bien référencé en fait sur l'ensemble de notre communauté de communes, qui est la plus importante du département, qui représente à peu près 55 000 habitants, à peu près tous ceux qui faisaient du privé comme du public ou associatif, qui font des formations informatiques. Donc des fois, on s'arrête et voilà, on va réorienter les usagers vers ces associations, vers ces autres partenaires qui peuvent être aussi des partenaires qu'on va faire venir pour sensibiliser des publics de façon différente. Je pense à l'association Défi de la Nester, qui est une association qui travaille plutôt dans le domaine de l'informatique, mais le domaine social. On les a fait intervenir dans le cadre de la Semaine Bleue, donc pour un public de personnes âgées. Voilà, c'était une première rencontre pour un démontage d'ordinateur et remontage. Et du coup, ce public, on utilise aussi... depuis ce matin, on a été évoqué tout le temps l'offre. C'est ce qui est quand même le plus visible. Et pour moi, le numérique ne se limite pas à l'offre qui est nécessaire, qui doit être formalisée, qui doit être belle et étoffée et renouvelée. Mais le numérique, c'est autre chose. Le numérique, pour moi, c'est beaucoup plus large. C'est la vie quotidienne de la bibliothèque. J'ai dit que c'est la mission de chacun. Donc, on doit parler de numérique. Finalement, tout le monde doit pouvoir en parler dans la bibliothèque et faire de la médiation numérique quasiment tout le temps. Et donc, on a, en dehors de cette formation, parce qu'on ne touche pas tout le monde en formation, il faut faire la démarche d'aller en formation. Donc, on a différentes choses. On a de l'événementiel, Donc on a chaque année une install party, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis on a aussi des démonstrations. Et là, ça fait beaucoup moins peur de venir assister à une démonstration. Donc si on travaille avec un partenaire pour une journée spéciale, une démonstration, donc on va travailler pour la semaine bleue avec une association Défi, on va sensibiliser les associations de personnes âgées parce que la semaine bleue, bon, ils ont l'habitude de venir à la bibliothèque pour d'autres choses. Voilà, ça va être une démarche comme ça qui va nous permettre de sensibiliser un public différent. Une chose importante aussi, c'est que notre offre d'initiation informatique est gratuite, mais elle est ouverte à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être inscrit à la bibliothèque. Alors c'est peut-être un détail, mais pour moi c'est très très important, puisque ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de venir à la bibliothèque, d'être inscrit pour pouvoir participer. Et on a repéré qu'on a plus de 60%, 70% selon les années, de personnes qui ne viennent pas à la bibliothèque, hein, qui n'ont pas envie de s'inscrire forcément à la bibliothèque, mais qui vont venir à une séance d'initiation, ça va leur plaire, ils vont revenir à une seconde, voire venir accompagner une copine, une voisine, le mari, voilà, parce que ça marche aussi comme ça, beaucoup. Et puis, bah, c'est des publics qu'on va revoir régulièrement, on va les revoir pour l'install party, voilà, et ça permet de fidéliser un public différent et toucher un public différent. Aujourd'hui, à Quimperlé, on a à peu près 4000 inscrits actifs. Et l'ensemble de nos animations, donc il n'y a pas que l'informatique, hein, l'ensemble de nos animations, puisque ça on l'a comptabilisé, on a 4000 personnes qui viennent assister à une rencontre, une animation à la médiathèque. Donc c'est quand même un poids très important.
Pour nous à Saint-Quentin, l'objectif du numérique n'est pas tant de faire venir de nouveaux publics. On a une longue pratique de lecture publique et avec une offre très importante. Ça fait qu'on a 30% de la population qui est usagée active des médiathèques, dont une part qui sont des gens avec des usages alternatifs, je dirais. C'est-à-dire qu'ils viennent une année parce que l'Institut pousse beaucoup à venir à l'école, mais si on ne les pousse plus, ils ne vont pas revenir l'année suivante. Voilà, donc on a, comme tout le monde, les 15% qui sont des fanatiques et puis les autres 15% qui sont pas trop fidélisés. Et pour nous, introduire le numérique dans notre offre, c'est une façon de proposer autre chose et peut-être de les fidéliser. Donc nous, dans l'idée, le numérique, c'est une offre. Alors je te rejoins quand tu dis que c'est de nos missions. Nous, pour nous, c'est même pas une mission, c'est un nouveau volet de notre activité de bibliothèque. C'est-à-dire que nous avons travaillé avec la direction des ressources humaines pour refaire les profils de poste de tous les agents et qui servent aux évaluations. Et dans ces profils de poste, le numérique apparaît sur le profil de poste de chaque agent dans les différentes parties de son activité, que ce soit bien sûr sur les collections, sur les médiations, que ce soit sur les accueils de classe. À terme, l'idée, c'est que le numérique soit une composante aussi intégrée que l'a été les revues quand on a commencé à ouvrir largement des revues, etc. Ça n'est qu'un pan de notre activité courante. Et donc, on essaye de l'intégrer. Alors, ça fait un an qu'on l'a développé, donc c'est encore très frais. On en est encore plutôt à l'appropriation par le personnel, déjà, ce qu'il faut. L'idée, c'est un adhérent vient faire une réservation, fait une réservation, vient chercher un truc autour des guides de voyage, lui dire que l'offre numérique, c'est apprendre les langues. Donc on lui montre que grâce à notre offre en ligne, à la médiathèque ou chez lui, il peut apprendre des langues, que c'est apprendre à retoucher des photos, à retailler des photos pour faire son album de voyage. C'est c'est donc intégrer l'offre numérique et l'offre de formation numérique, qui sont ce sont des petits tutoriels vidéo, c'est court, c'est des petites séquences, on choisit, c'est pas un truc lourd. Donc j'ai fait des belles photos de vacances, je sais pas trop bien, il y en a qui sont un peu à retoucher. J'ai trouvé un petit tutoriel pendant un quart d'heure, je vais ça pour savoir retoucher ça avec Picasa, parce que je sais que ça existe, mais je sais pas m'en servir. Donc c'est intégrer le numérique dans le besoin quotidien des gens et Donc peut-être effectivement une nouvelle façon d'apprendre de ce fait-là. Et puis surtout, à travers ça, fidéliser des gens qui ne sont pas sur des pratiques de lecture classique, de lecture de romans, etc., mais plus sur un usage quotidien et adapté à leur vie.
Oui, alors je voudrais juste faire part un petit peu de notre expérience sur le terrain, c'est-à-dire à Guebwiller, ville de 12 000 habitants. Donc nous avons mis en place des accès donc sécurisés un minimum avec pas de limitation, des accès Facebook, des accès quasiment libres à Internet. Nous avons organisé une campagne de communication et le public très rapidement, un public nouveau que nous n'avions pas vraiment ciblé, mais est venu à la médiathèque et s'est approprié ces outils. Et ce que je trouve très intéressant dans ce domaine-là, c'est que de plus en plus, et de manière empirique, nous construisons l'offre de services de la médiathèque en dialogue avec les usagers. Un exemple, si on parle des jeux vidéo pour les enfants, les enfants n'ont pas eu besoin de notre aide pour utiliser les accès qui leur étaient proposés pour mettre en place des jeux en réseau. En ce qui concerne les adultes, finalement, c'est un public de demandeurs d'emploi qui est venu à la médiathèque et ça, on constate qu'ils ont quand même un plaisir à venir à la médiathèque parce qu'ils ne sont pas identifiés demandeurs d'emploi d'office, mais qui, en nous sollicitant, parce qu'ils rencontrent des difficultés, nous co-construisent avec nous l'offre parce que, à travers ce dialogue, tout simplement, nous prenons conscience de leurs besoins. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très nouveau et de très intéressant dans la manière dont, aujourd'hui, nous réfléchissons nos services, c'est-à-dire de ne plus être entre bibliothécaires à se poser la question de qu'est-ce qui va bien pouvoir être intéressant pour notre public, mais bien de dialoguer avec eux et de se poser la question de comment va-t-on pouvoir répondre à leurs besoins.
Alors, dans la continuité de ce sujet-là, en fait, quels sont les publics qui sont les plus demandeurs? Est-ce que ça reflète ce que Judith a montré, les publics qui sont plus âgés, parmi les publics qui vraiment demandent le plus à l'utilisation de ce service, est-ce que vous retrouvez ces publics-là? Est-ce que vous en avez d'autres? Et en complément de ça, mais donc Pascal et Jasmine ont déjà en partie répondu, comment ces publics vont contribuer à l'évolution de l'offre?
Alors moi, j'ai retrouvé vraiment tout le public. C'est pas possible. On est presque anglais en Bretagne. Oui, c'est les personnes âgées, mais c'est aussi le public qu'on vise, hein, parce que Quimperlé est une population âgée. C'est ça, une des caractéristiques. Donc c'est aussi le public qu'on visait. Quand on met des initiations informatiques le mardi après-midi, on a quand même peu de chances de toucher les actifs. C'est quand même un peu plus difficile. Donc voilà, quand on veut toucher les actifs, on fait des choses le samedi, on fait des démonstrations. Donc ça, on le fait aussi, et on va le faire sur d'autres thématiques. Donc ça va plus être peut-être créer son compte, créer sa boîte email, mais bon, ça va être quelque chose de beaucoup plus ciblé par rapport au public. Donc c'est aussi voilà, le public qu'on touche, et c'est aussi le public qu'on veut toucher. La deuxième partie de la question, c'est oui, il y avait aussi les personnes âgées, les personnes en demandeur d'emploi. Effectivement, ça, c'est une très forte demande. Et je dirais que là, on se heurte un peu à une difficulté, là, une limite. C'est vrai que nous, on a aussi rencontré les personnes de Pôle emploi et on a fait le choix de ne pas faire la rédaction d'aide à la rédaction des CV, par exemple, parce que c'est trop important. Trop lourd de conséquences, on ne s'en sentait pas la responsabilité, la compétence forcément de faire ça. Et puis eux, le directeur de l'agence Pôle emploi de Quimperlé, m'avait assuré qu'ils avaient des séances aussi de formation. Mais souvent, les demandeurs d'emploi n'osaient pas s'inscrire ou avaient des difficultés à s'inscrire. Donc on aide à la mise en forme, mais on ne fait pas les CV sur ces publics-là. C'est un public mais je dirais aussi c'est l'ensemble des initiations informatiques, c'est un succès tel que finalement tout est quasiment complet tout le temps. Hein, bon, je crois qu'on pourrait multiplier par 3, Donc c'est pas, c'est pour ça que ça rentre dans une stratégie de conquête des publics, c'est qu'on ne souhaite pas non plus se transformer en lieu de formation au numérique, parce que ben voilà, c'est, il faudrait y mettre beaucoup plus de moyens humains, matériels et des espaces. Et on demeure une petite ville. Sur la deuxième partie de la question, qui était l'intégration des savoir-faire et des usagers, il se trouve que les initiations marchant bien, on a eu un de nos usagers qui nous a dit « Mais vous ne proposez rien sur le libre ?» Voilà, et moi j'adore le libre, voilà, c'était quelqu'un de très convaincu, j'ai fait un petit site internet, voilà. Je vous propose de faire des initiations. Donc voilà, on est rentré dans un processus, donc il y a d'abord eu une démonstration qui a eu beaucoup de succès, et donc on a inclus d'abord 2-3 séances, on l'a inclus dans notre programme trimestriel d'initiation informatique, un peu pour tester, pour qu'on se mette d'accord finalement sur une certaine pédagogie, que ce soit un peu identique quand même. On lui a donné tous nos vieux ordinateurs, voilà, sur lesquels il a installé Linux. Donc lorsqu'il fait des initiations, nous on peut faire d'autres initiations. Ça complète l'offre. Donc il a son petit chariot, il installe, lui il est salarié, hein, c'est pas un retraité, il installe tout sur Linux. Au bout de plusieurs années, ça fonctionne tellement bien que du coup, on va un petit peu plus loin. Donc, il fait des initiations à OpenStreetMap et à des logiciels spécifiques libres. Comme il connaît, c'est un peu une communauté libre. Il connaît une association sur Quimper Linux Quimper. Une personne aussi qui travaille dans le domaine social à titre personnel, qui est sur Quimper également. Et ses amis, là, ce groupement, organise tous les deux mois une install party. Donc une install party, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moment de rendez-vous où vous pouvez emmener votre disque dur sur votre ordinateur sur lequel vous avez des gros problèmes, où vous en avez assez de Windows, ça rame, et vous avez en face de vous des experts du libre qui vous dépannent, qui vous installent Linux, qui vous expliquent comment ça marche. Donc ça dure une journée. Donc ça, les install parties existent certainement depuis très longtemps. Ils en faisaient dans des centres sociaux, dans des maisons d'associations. Et donc je leur ai proposé d'en faire une à la bibliothèque. Donc on a déménagé la moitié de la bibliothèque, plus le câble chez la fleuriste. Voilà, on en est à la troisième. C'est un succès vraiment très important. C'est de l'événementiel. C'est aussi une difficulté du numérique. C'est que c'est un peu comme toutes les activités récurrentes des bibliothèques. On a du mal finalement à les vendre, à les rendre lisibles, parce que ça, c'est très routinier finalement. Et cet événementiel, bah, ça crée quelque chose. Il y a des gens qui viennent de loin, qui viennent traversent le département, ils viennent de Brest pour assister à une install party parce qu'ils ont absolument envie d'avoir Linux sur leur système. Et du coup, ça permet d'avoir des relations aussi pour autre chose. Voilà, on fait du contact, hein, ça crée du contact, et du coup, pour des partenariats futurs, c'est quand même très intéressant. Voyant que ça marchait bien et qu'on avait inclus une première personne, on a un monsieur qui nous a dit bah, « C'est bien joli Linux, mais vous ne proposez pas grand-chose sur le Macintosh. Moi, je suis ancien informaticien Macintosh. » Voilà, et donc on a fait la même chose. Bon, là, il n'y aura pas. On peut pas. À Linux, c'est les logiciels libres, un système d'exploitation qui remplace Windows. Hein. Vous avez Macintosh, Windows, Linux. Ce qui est intéressant, c'est que ces particuliers, ces usagers de la bibliothèque qui deviennent formateurs, on les a inclus finalement dans l'offre sans donner de nom. C'est-à-dire, parce que si à l'équipe, je pense, on avait dit, y a des bénévoles maintenant qui vont intervenir, je pense que ça ne serait pas passé du tout bien. Ça s'est fait un peu naturellement. Ils ont été vraiment inclus de façon naturelle, on va dire. Et maintenant, c'est quelque chose de très, très fort. Et c'est même eux qui nous ont formés sur certains aspects de Macintosh, puisqu'on avait déjà un Macintosh dans la médiathèque. Et puis à Linux également, à certains logiciels. Voilà. Et ils n'ont pas l'exclusivité, on va dire, de tout ce qui est libre. C'est-à-dire qu'on peut faire, nous, des initiations. Je pense à la bibliothèque virtuelle Calibre. Ça, c'est nous. Voilà, c'est un peu notre domaine. Donc, c'est plutôt nous qui allons faire ça. Voilà.
Alors, nous, sur les publics demandeurs, je vous ai plutôt parlé de l'offre qu'on faisait à distance. Notre travail, c'est de faire connaître pour les gens autonome, c'est de leur faire connaître les produits, les formations que nous proposons. Et pour les gens plus en difficulté, c'est de les accompagner dans l'usage. Donc ça, on commence à l'expérimenter. On a mis en place des ateliers numériques. On en a mis, en fait, ce qui marche le mieux et qui pour nous est le plus compliqué, c'est un genre SOS informatique, donc un peu ce qu'on expliquait sur l'usage, mon ordinateur ne marche pas, comment je peux faire. Et ça, nous, on est en train, bon, on est en phase d'expérimentation, donc on essaye un peu tout, on va en tirer le bilan à la fin de l'année, enfin, à l'été 2015. C'est compliqué le SOS informatique parce que c'est forcément de l'individuel. Il faut savoir répondre à tout et il faut avoir beaucoup de temps parce que c'est un bibliothécaire pour un adhérent. Donc ça nous semble, c'est vraiment la demande majoritaire et ça pour nous c'est sans doute la limite de là où on ne veut pas aller. Donc ça, c'est un peu compliqué sur ce qui est en groupe. Alors, on fait des présentations de nos formats, de la e-médiathèque, des produits en ligne, etc. Ça commence à intéresser du monde. Il faut que le bouche-oreille fonctionne. Ce qui marche bien, et c'est sans doute c'est tout ce qui tourne autour de l'emploi, parce qu'on travaille avec la Maison de l'Emploi, qui est donc une structure... De l'agglomération pour d'aide aux recherches d'emploi. Et c'est pareil, on est porte d'entrée. On se rend compte qu'en termes de médiation numérique dans la médiathèque, on est plus une porte d'entrée et on ne veut pas rentrer dans une... Effectivement, ce que tu disais, on n'est pas des formateurs. Je pense que c'est vraiment la limite qu'on fera, qu'on posera. Et donc, la difficulté, c'est que l'individuel, c'est ce qui est demandé, mais on n'a pas forcément les ressources. Et le collectif, si on ne s'appuie pas, en tout cas pour un collectif d'adultes, si on ne s'appuie pas sur une structure partenaire qui fait que le public est un peu déjà vient en groupe, ça ne marche pas parce qu'on ne répond pas. Ou alors, on l'a fait des ateliers. Et en fait, c'est des successions d'individus à qui on répond et ce n'est pas un atelier collectif. Donc, sur cette offre sur place, on a un peu de mal à trouver le bon calibrage entre nos compétences, nos capacités de dégager du personnel et les attentes du public. Donc, on a décidé que pour l'instant, on mettait notre objectif, c'est que les produits qu'on propose en ligne soient que le public s'aperçoive que ça existe et les utilise.
Moi, je vais rebondir sur ce que tu disais par rapport à faire connaître. Vous avez parlé de ça tous les deux, concernant nos offres. Moi, je pense que déjà, nos catalogues d'offres, là, j'ai compté avant la journée, on a 54 offres différentes, etc. Est-ce qu'on arrive concrètement à les faire connaître ? Alors, on est souvent dans des communications très, très classiques, hein, imprimées, affiches, communications très institutionnelles. Et donc, dès qu'on veut faire de la médiation numérique, il faut se poser la question de notre identité numérique, comment nous allons apparaître sur le territoire. Il faut faire connaître toutes ces nouvelles prestations. Et ce n'est pas évident parce qu'on est sur des territoires parfois très vastes, sur des territoires qui ont une offre culturelle qui est souvent riche. Hein, sur Strasbourg, c'est impressionnant, l'offre à la disposition de toutes les personnes. Donc une des choses les plus importantes, par exemple, qu'on a commencé à faire avec ma collègue Claire, qui passait le micro tout à l'heure, merci beaucoup, depuis un an, on a développé un certain nombre d'outils qui sont... Alors, il y a le portail des médiathèques, bien évidemment, hein, et puis il y a un certain nombre des nouveaux outils, des pages Facebook, des Twitter, des blogs, etc. Alors, bien évidemment, dans le développement de tout ça, l'idée, c'est pas de développer ça de manière anarchique, dans tous les sens, pour être à la mode ou pour... L'idée, c'est vraiment d'appréhender ces outils, de communiquer autrement, de faire connaître, d'aller chercher les usagers. Hein. Enfin, je crois qu'avec tous mes collègues hybrides, on répète ça depuis à peu près 7-8 ans, d'aller chercher les gens là où ils sont. Et je crois que c'est vraiment ça qui est super important. Parce qu'en fait, il y a des communautés qui fonctionnent sur le web, qui se passent complètement parfois de nos établissements. Et il y a des, ce qu'on appelle des communautés agissantes. Hein. Un des plus connus dans notre métier, c'est Babelio, hein, qui est un site de recommandation littéraire où, qui s'est construit complètement en dehors des bibliothèques. Je cite tout le temps cet exemple parce que je trouve qu'il est vraiment symptomatique. Voilà, donc il faut aussi apprendre à utiliser, aller apprendre tous ces outils. J'en parlerai tout à l'heure de comment on va tenter de répondre à cette ce type de formation. Voilà, il faut comment il faut apprendre des nouvelles choses. Là, par exemple, on sort de deux semaines où on a on s'est formé. Il y a 32 personnes des médiathèques de Strasbourg qui se sont formées à un stage écrire pour le web. Alors, écrire pour le web, on a fait un cahier des charges et on voulait une formatrice qui connaisse le monde culturel, hein, ça faisait partie des conditions, qui savait écrire pour le web. Et donc, en fait, la personne qu'on a choisie parmi les personnes qui ont postulé sur cette offre, c'était une ancienne journaliste. C'est une collègue des médiathèques de Grenoble qui nous a conseillé cette personne, puisqu'elle avait déjà, on va dire, sévi sur le réseau grenoblois. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte, on a regardé déjà ce qu'on faisait, nous, hein, ce qu'on produisait sur nos blogs, là, depuis un an, etc. Il a fallu aussi accepter cette critique, hein, ce qu'on avait déjà écrit sur les blogs. Là, vous faites bien, là, vous faites mal, là. Et puis, on a écouté ses conseils. C'est des choses qu'on n'a pas apprises dans notre formation continue initiale. On sait pas être, on n'est pas des journalistes. Mais sur le web, il faut écrire d'une autre manière. On ne peut pas reproduire ce qu'on écrit sur la plaquette mensuelle ou sur le document officiel peut pas se plaquer directement sur un Twitter. De toute façon, vous ne pourrez pas mettre un paragraphe un document qui fait 4 pages parce qu'il faut écrire en 140 caractères. Donc il faut vraiment connaître les outils, le médium, et puis aller les chercher, ces publics. Hein, Judith, ils vont chercher les publics, quoi. Donc, c'est très déstabilisant pour nous, tous ces nouveaux outils, ces nouvelles méthodes. Il faut apprendre plein de nouvelles choses. C'est à la fois passionnant, parce qu'on est en train on bâtit, en fait, il y a plein de choses qu'on sait déjà faire. La médiation, on fait ça depuis longtemps dans les bibliothèques. Mais voilà, le numérique, c'est une évolution de nos manières de communiquer. Je pense que c'est super important, ça. Et donc il faut qu'on se forme de manière et puis surtout le mot, vous avez prononcé plusieurs fois le mot, c'est le mot expérimentation, c'est-à-dire que peut-être que ce qui va marcher à Strasbourg ne marchera pas à Quimperlé ou à Saint-Quentin-en-Yvelines. Enfin, je veux dire, il ne faut pas avoir peur d'expérimenter. On répète ça continuellement, mais c'est que la grande leçon que je garde de cette période là qu'on a appelée le web 2.0, maintenant plus personne dit web 2.0, mais c'est apprendre en faisant. Et ça, je suis vraiment convaincue de ça. D'ailleurs, on voit bien que, je disais ça déjà ce matin, que les formations qu'on faisait traditionnelles depuis 15-20 ans en bibliothèque sont en train d'évoluer vers des formations beaucoup plus participatives. Ce mouvement-là existe dans la société. On ne peut pas rester en dehors de ça. Alors, il y aura sans doute encore des formations extrêmement traditionnelles, hein, verticales. Mais on va sur des échanges. L'exemple des Ideastore est vraiment remarquable par rapport à ça. Hein. Et puis, ce que vous allez faire avec le Shadoc, avec les Fab Labs, sont vraiment un mouvement mondial où les gens viennent en pair à pair, viennent partager des savoirs de manière horizontale. Hein. Voilà.
Oui, effectivement. Donc, moi, j'abonde tout à fait dans ce sens. Donc, en deux mots, ce qu'on a mis en place à la médiathèque de Guivillers, donc c'est les jeudis de l'informatique. Donc, le jeudi matin, en dehors de l'ouverture au public, sur rendez-vous, un bibliothécaire avec un usager, qu'il soit inscrit ou non à la médiathèque, qui exprime ses demandes. Et donc, nous essayons d'y répondre. Je n'utilise jamais le mot formation. Pour moi, c'est vraiment du partage de compétences. C'est tout à fait une démarche très modeste. Il est vrai qu'après avoir consulté Pôle emploi et s'être renseigné sur tout ce qu'il proposait, il s'est avéré qu'il y avait un niveau de formation qui n'était pas du tout proposée par Pôle emploi, c'était le BABA, le niveau débutant. En fait, il y a des possibilités d'approfondissement ou alors c'est un professionnel qui prend le relais et qui fait à la place du demandeur d'emploi. Et nous nous sommes dit que nous, bibliothécaires, nous étions quand même à même, à partir du moment où on est dans le partage de compétences et non pas dans la formation, de permettre à notre public d'acquérir ce niveau-là qui n'est effectivement sur notre secteur pas proposé par un autre organisme. Donc on a quand même été assez attentifs à éviter le doublon, à éviter de se mettre en porte-à-faux par rapport à d'autres structures existantes. Mais c'est vrai que pour moi, c'est peut-être pas de la formation, mais plus du partage de compétences. Et j'enchaînerai juste rapidement sur la difficulté de formation du personnel, parce que c'est du travail d'équipe. Et cela nécessite de la part de toute l'équipe un certain niveau de compétences qu'on n'a pas forcément. J'ai fait des recherches, entre autres dans le catalogue de formation. Je n'ai trouvé aucune formation correspondant vraiment aux besoins que nous avons, nous, aujourd'hui, en tant que bibliothécaires, pour pouvoir assurer ce service. Et donc, nous avons aussi mis en place de l'auto-formation entre collègues, en profitant les uns des autres de nos connaissances respectives.
Merci. On va revenir un petit peu après sur la question de la formation des personnels. Mais du coup, je ne sais pas trop comment poser ma question suivante. Ce que Véronique et Jasmine ont dit, puisque le fil conducteur de cette table ronde est notamment voilà, la formation tout au long de la vie et la part que le numérique peut y prendre. Donc moi, j'avais des questions sur ce que vous pouvez observer de l'efficacité ou pas d'utiliser le numérique pour l'apprentissage, de voilà ce que ça change pour les gens d'utiliser du numérique, est-ce que ça apporte, et puis aussi du type de alors est-ce que je dis encore formation du type de formation, auto-formation, formation sur place, formation à distance, formation collective, tout ce qui peut être offert, qu'est-ce qui dans toutes ces offres là que vous offrez pas forcément tous ici, mais il y a tout représenté, qu'est-ce qui semble plus efficace vu d'une médiathèque pour les publics qui sont demandeurs, qu'est-ce qui est le plus intéressant à faire? Et aussi, qu'est-ce qu'on est plus à même, là où on est le plus efficace, nous, même si... voilà. Est-ce que... Franck, peut-être
Où est-ce qu'on est le plus efficace? Enfin, je ne sais pas, on offre différents types de formations, et moi, je pense qu'il faut qu'on offre plusieurs types de formations, c'est-à-dire que les ressources numériques en ligne, oui, mille fois oui, mais je pense que ça ne convient pas à tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le côté autodidacte, vont pas forcément se mettre à... on voit bien qu'on développe des ateliers collaboratifs, on a d'autres types de personnes. Ça convient à certaines personnes, l'auto-formation. Et puis après, peut-être qu'après nos ressources en ligne, en France, on a un choix quand même important, mais qui est relativement limité. Mais on a des personnes qui nous disent parfois « Oh ben moi, ça ne m'intéresse pas ça, je vais plutôt sur YouTube, parce qu'il y a des vidéos aujourd'hui sur YouTube qui parlent de tout. » Voilà, donc on est aussi... Il y a une concurrence aussi de l'offre pour les médiathèques. Donc après, on développe, par exemple, je reste sur les ressources numériques parce que c'est vraiment quelque chose moi qui me questionne, c'est quelle médiation on va faire autour de ces ressources numériques, parce qu'on peut dire bah tiens, je les mets sur notre site de médiathèque, c'est accessible en ligne, mais si ça s'arrête là, je sais pas. Peut-être il faut en choisir moins, faut les sélectionner, faut serrer, faut les accompagner, faut faire de la médiation autour. Voilà, c'est vraiment un questionnement. Moi, j'ai pas de réponse. Hein. Je vais pas vous dire. C'est vraiment un questionnement depuis quelques années, puisque dans les médiathèques où j'ai travaillé précédemment, on se rendait compte qu'on avait pas mal de ressources, et puis finalement, les gens n'y allaient pas forcément, quoi. Ou c'était toujours les mêmes. Enfin, je pense que ça résonne en vous ce que je dis. Voilà, donc je crois qu'il faut être aussi exigeant avec ce type de ressources comme on l'est sur les différentes collections que nous développons. Voilà, sur cette partie-là, ça va sans doute m'évoquer d'autres choses après, peut-être.
Véronique, là.
Nous, c'est trop récent pour qu'on puisse en tirer un bilan. Voilà, on essaye un peu tout. Et une des exigences qu'on a, c'est quand même que nous dépensons 50 000 euros par an sur les ressources numériques. Il faut qu'elles soient utilisées. Et on est redevable de l'usage qui est fait par le public de ces ressources. Donc, c'est pour ça qu'avant de passer à autre chose, on veut déjà que le public utilise largement ces ressources ou qu'on les abandonne si on n'arrive pas. Mais effectivement, tant qu'on n'a pas fait tout ce qu'on pouvait pour que le public sache que ça existe, voit en quoi ça lui est utile et qu'on puisse tester que ça marche ou ça ne marche pas, c'est d'abord notre priorité.
Donc nous, on a aussi des offres en ligne via le portail intercommunal grâce à la bibliothèque départementale. Donc c'est un peu compliqué, mais on bénéficie d'un bouquet comme ça d'offres numériques. Il y a tout à prendre, le kiosque, je pense. Pour nous, ce qui fonctionne le mieux à Quimperlé, c'est la formation, les initiations individuelles. C'est clair qu'aujourd'hui, les besoins... Dans une petite ville de 12 000 habitants, eh bien, les besoins ils sont individuels et en fait, les gens ils ont envie qu'on réponde à leurs besoins à eux. Voilà, donc c'est ce qu'on fait pas mal, dans la mesure du possible. Après, les ressources en ligne, on les a eues donc, gratuitement et on n'a pas fait de médiation dessus, autour. Voilà, on l'a mis dans la communication, on a fait un lien vers notre blog qui est en fait notre portail. Et bon, on voulait voir comment ça allait se passer. Je pense qu'en 2 ans, on a dû avoir 15 inscrits. Voilà. Depuis septembre, on fait de la médiation comme on sait faire avec le reste, c'est-à-dire qu'on a mis des fantômes parmi les périodiques pour le kiosque, tout à prendre, on a fait la même chose sur les collections. On a proposé des initiations, des rendez-vous d'initiation. En janvier, mars, on va faire des démonstrations. Et on fait aussi des initiations à la demande. Vous appelez et puis... ça a explosé. Voilà, les chiffres ont explosé. Moi, aujourd'hui, je ne mettrai pas d'argent pour Quimperlé dans des ressources numériques si on n'a pas les moyens de faire de la médiation autour. Voilà, c'est clair.
Du côté du Shadok, en fait, puisque c'est en partie en cours de conception, toutes ces choses-là, en fait, est-ce qu'il y a des... d'emblée, des choses sur lesquelles vous avez l'intention de mettre l'accent en termes de formation, des choses qui vous semblent d'emblée plus efficaces? Comment vous raisonnez les choses à l'heure actuelle?
Alors nous, on se positionne vraiment peu sur tout ce qui va être usage utilitaire du numérique, c'est-à-dire faire un CV, apprendre à utiliser un ordinateur, c'est pas notre cœur d'action. On va être beaucoup plus sur, encore une fois, comment on peut amener des publics à explorer des usages dont ils n'ont pas l'habitude ou qu'ils ne soupçonnent pas qu'il peut y avoir derrière le numérique, auxquels ils n'ont pas accès facilement depuis chez eux. En fait. Donc, par exemple, aujourd'hui, les imprimantes 3D, c'est encore des outils très rares. Alors, comment on peut amener des personnes à être... créatif, bricoleur, monter en compétences. Enfin, je partage tout à fait cette position sur vraiment l'enjeu de la montée en compétences des habitants. Également explorer le champ des logiciels libres pour qu'ils puissent ramener quelque chose à la maison. Donc c'est des projets qui sont en train d'être écrits. Aujourd'hui, ça tourne beaucoup autour de la vidéo, du son. D'accompagner aussi peut-être d'ateliers des expositions qui seront en cours. Donc, par exemple, on en a la salle d'inauguration sera autour du travail de Luc Schuiten, autour de la cité végétale. Donc, comment on peut amener le public à mieux découvrir le travail de cet artiste à travers des ateliers. On aura également tout un cycle autour de musique et numérique. Enfin, voilà, donc ça va thématiser un petit peu nos approches. Et après, au niveau de la formation, vraiment là pour le coup de la formation, notamment de la formation continue et de la formation... on est beaucoup en lien avec les universités et les écoles de Strasbourg. Moi, j'insiste toujours pour que ce qu'on fait avec ces écoles et ces universités puisse être ouvert à des personnes qui ne sont pas dans l'université, qui ne sont pas étudiants, pour partager avec le plus grand nombre. Et donc on va être beaucoup plus autour d'usages peut-être plus professionnels du numérique dans ces cas-là, donc des logiciels plus pointus comme MaxMSP, qui permettent de créer un lien d'interactivité, par exemple, entre du son et de la lumière, des choses plus professionnelles grâce à des outils qu'on a au sein du lieu. C'est vraiment les deux aspects. Mais je pense qu'il y a vraiment un point important que moi, je retiens et qui, pour moi, va aussi être un enjeu quand on va ouvrir ce lieu, c'est que finalement, pour vraiment réussir à fidéliser un public autour de ces ateliers, il faut avoir peut-être voir moins grand, ne pas trop diversifier l'offre, avoir un projet finalement à travers la mise en place de ces ateliers. On ne peut pas toucher tout le monde, mais par contre, on peut les entraîner dans le temps. Et peut-être plus insister sur commencer par quelque chose de général pour aller de plus en plus vers des usages spécifiques. Moi, il y a un exemple qui me semble très très bon par rapport à ça, c'est celui de l'espace Gantner à Bourgogne, qui est la médiathèque départementale. Donc, c'est dans un tout petit village. Et ce centre est devenu centre d'art officiellement, a été labellisé, il est dédié au numérique et c'est une médiathèque. Ils emmènent leur public dans des usages ultra pointus du numérique et je trouve ça formidable. Mais c'est un travail dans le temps, parce qu'au départ, c'était vraiment un ovni dans le village et je pense qu'on le sera aussi à Strasbourg.
Merci. Alors, je pense qu'on va basculer maintenant un peu du côté des coulisses. Je pense que les uns et les autres ici, ça vous intéresse sûrement de savoir comment ça se passe pour mettre en place ces différentes choses. Donc, en termes organisationnels, cette fois-ci, quel impact ça peut avoir de mettre en place ce type d'offre sur le fonctionnement, sur les personnels, on va ratisser un peu large. Comment ça se passe dans les coulisses de la bibliothèque quand on met en place ce genre de choses ?
Je vais basculer vers la force, c'est ça ? Côté obscur. Alors, l'impact, je ne sais pas si on... Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'au départ, nous, la médiathèque, elle a 10 ans. Au départ, il n'y avait que des opaques de prévus, pas de section multimédia. Donc, on a transformé les opaques en postes informatiques, en accès public, on s'est dit on va faire des initiations informatiques car on avait repéré qu'il y avait pas, il y avait une forte demande sur le territoire et pas d'offres à proximité. Donc c'est pas un impact, c'est plutôt que les initiations informatiques et le développement du numérique et de la médiation autour du numérique a été possible en raison du mode d'organisation qu'on avait. Voilà, c'est dans ce sens-là. Sinon on n'aurait pas pu faire. Donc on ne pouvait pas faire une section multimédia séparée, tant mieux, maintenant je dis tant mieux, parce que si jamais on avait eu ça, eh bien j'aurais fait comme on voit souvent, j'aurais recruté un petit jeune qui s'y connaît bien, et puis du coup ce qui serait passé c'est qu'aujourd'hui quand un lecteur serait à la bibliothèque, il demanderait, je voudrais une liseuse, vous savez comment ça marche ? Et bien on lui dirait, non, mais demandez au petit jeune qui est dans la salle, il n'est pas là aujourd'hui, revenez demain. Alors ça, on n'a pas ça à Quimperlé. Il y a nous sommes que 9, mais il y a une grande polyvalence. On a une sectorisation uniquement sur les acquisitions. Sinon, tout le personnel tourne sur tous les espaces, donc... Les personnes qui font les acquisitions en multimédia font aussi de l'accueil et du renseignement en jeunesse. Donc, ça n'a pas été une mince affaire d'instaurer ça, mais je pense que ça a été le levier. Et du coup, le numérique rentrant dans les missions de chacun, eh bien, tout le monde fait de la médiation numérique au quotidien. Et ça, c'est ça finalement qui est le plus important que les ateliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous venez dans la médiathèque de Quimperlé, vous verrez les ordinateurs qui sont mélangés dans les collections. Donc il y a bien une continuité. Le présentoir de liseuse qu'on a en prêt depuis 2011, il est dans les collections également. La Wi-Fi également au rez-de-chaussée. Donc vous adressez un bureau, vous dites je veux me connecter à Wi-Fi, comment je fais ? N'importe qui sur les 9 salariés sera capable de vous connecter. Donc c'est ça en fait l'enjeu, je trouve. L'intitulé, c'est le rôle stratégique des bibliothèques dans l'appropriation numérique, mais le numérique est un enjeu aussi pour les bibliothèques dans l'organisation et dans la vision qu'on peut avoir de son travail. Donc on n'est pas tous très compétents dans tous les domaines, du coup, on va appeler un collègue et des fois, on dit on n'est pas compétent, on ne sait pas faire.
Alors, nous, on est parti tout à fait sur la même optique. Nous avons... Il y a a 140 personnes à Saint-Quentin. L'objectif, c'est que dans, alors pas tout de suite, mais dans les 3 ans qui viennent, l'ensemble du personnel soit capable de répondre à toute demande concernant l'offre numérique, de toute demande de premier niveau. De la même façon que les 140 agents sont en capacité de répondre à toute demande concernant de la musique, du cinéma, n'importe quel. Alors on est plus ou moins compétents. Quand certains viennent me demander des noms de rappeurs, je ne sais même pas que ça existe. Voilà, mais on se débrouille avec eux. C'est la même chose pour. On fait une recherche. C'est la même chose pour le numérique. Si je ne sais pas, je sais chercher et j'ai le premier niveau de réponse. Donc pour nous, ça fait 1 an, donc c'est encore un objectif. Pour y arriver, on est parti de l'idée que la médiathèque, c'est le cœur de notre métier. C'est devenu le cœur de la médiathèque et que tout le personnel doit contribuer à contribuer sur le portail. Nous avons bâti la e-médiathèque autour de sélection de documents, non sans mal parce que les développeurs de portail ne savent pas le faire, mais bon. L'idée, c'est que on propose des sélections thématiques sur le portail. Ces sélections thématiques, elles sont faites par le personnel, quel que soit le niveau dans différents domaines. Et il y a une appropriation parce que le personnel contribue à la e-médiathèque. Il s'approprie cet outil et donc il va être capable d'en faire médiation auprès du personnel. Donc pour y arriver, nous avons formé 10 bibliothécaires qui sont nos experts, mais qui ne sont pas nos experts en sens où ils sont là pour répondre au public, mais ils sont là pour former et accompagner le reste du personnel. Donc ces 10 personnes ont fait des formations autour de ce qu'on appelait le web 2.0 et surtout ils ont fait une formation de formateurs. Et ils sont là à la fois pour être membre d'un labo e-médiathèque, c'est-à-dire l'endroit où on réfléchit, on fait de la veille, on bouillonne un peu pour voir comment ça évolue. Donc une partie recherche et veille, et l'autre partie qui représente la plus grande partie de leur temps, c'est d'accompagner les collègues de leurs équipes dans l'appropriation de ces outils numériques. Et normalement, ils ne renseignent pas plus que les autres, le public. Alors je dis bien normalement parce que c'est pas encore tout à fait ça, mais on y tient et on lutte pour que justement il n'y ait pas cette défausse du personnel. Après, à l'heure actuelle, nous avons 35 contributeurs réguliers sur le portail, sur 140. Au bout d'un an, c'est pas mal. Donc dans 3 ans, ça devrait être bon.
Oui, moi, je crois que ce qui est important, notamment sur la partie médiation numérique, c'est d'avoir, c'est vraiment une mission transversale. Et surtout, il ne faut pas que... On a développé un modèle de bibliothèque, de médiathèque qui a bien fonctionné pendant des années, hein, la médiathèque, avec des sections adultes, des sections jeunesse, des sections multimédia, après c'était des cybercentres, etc. Enfin, vous voyez ce que je vais dire. Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas commettre l'erreur d'aller créer un département médiation numérique. Moi, sur des précédentes expériences, j'ai travaillé sur, effectivement, comme vous à Saint-Quentin-Yvelines, jusque sur le profil des postes des agents, où on a intégré la facette numérique. Et ça, c'est vraiment important, et ça ne va pas se faire en 2 ans. Alors, je sais bien, après, que sur la réalité du terrain, on a souvent des personnes qui sont extrêmement identifiées. On a commencé comme ça, je veux dire, à Strasbourg, on a des référents numériques. Florence Billot, que je remplace à cette table ronde, a fait tout un travail de formation des formateurs, hein, donc indispensable, hein, pour c'est vraiment, il faut vraiment construire ce dispositif. Et donc maintenant, il faut qu'on aille un petit peu plus loin. Donc il faut que petit à petit, chaque personne de la médiathèque pourrait être éventuellement un contributeur potentiel pour faire la communication, pour alimenter les différents outils que nous allons pouvoir développer, numérique ou pas, ou animer, être capable d'être... Parce qu'il n'y a pas que des choses sur le web aussi. Après, il y a des choses qui se passent dans les médiathèques. faire un prêt de liseuse dans une médiathèque avec, dans un club de lecture, c'est un dispositif de médiation numérique. C'est échanger autour de ces nouvelles façons de faire. Moi, j'aime bien les formules qu'on construit avec Géraldine. On est sur le mode du démo-débat. Aussi, on vient proposer un objet qui peut paraître farfelu, et puis y a une discussion qui s'installe avec la salle, et puis on essaie de voir, les gens en fait, ils découvrent des outils qu'ils ne connaissaient pas. Hein, par exemple, sur le livre numérique, je suis toujours frappé par les enquêtes dans les journaux en disant les Français n'aiment pas le livre numérique, mais en fait, les éditeurs après ils disent il n'y a que 2% de vente des livres numériques, mais du coup les Français n'en veulent pas. Mais en fait, les Français n'ont pas encore testé les liseuses. Donc ça tourne en rond, quoi. À un moment donné, il faut qu'on ait un rôle de pédagogie aussi, je crois, sur ces choses-là. Par exemple, à la médiathèque de Neudorf, on va faire le 7 février, le samedi 7 février, toute la journée, on va faire une journée extrêmement pédagogique. On va faire une journée qui s'appelle Copy Party. Je ne fais pas simplement de la pub, c'est pour vous expliquer la démarche de ce dispositif. C'est vraiment de la pédagogie, une copie partie, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est en fait, c'est réexpliquer aux gens en fait, qu'il y a un cadre légal, leur montrer qu'ils peuvent venir en bibliothèque pour copier des contenus, mais pas dans n'importe quel cadre, c'est-à-dire qu'ils copient des contenus, puisque la loi nous l'autorise, ils peuvent copier des contenus avec leur matériel personnel, à charge pour eux, après, de ne pas les diffuser sur le web, etc. Mais pour leur usage personnel, on peut faire ce genre de choses. Il y a eu quelques copies parties qui ont déjà existé en France. Hein. C'est quelque chose qui est complètement légal. On aura aussi ce qu'on appelle, on aime bien appeler ça des pirate box. Alors quand on est plus soft, on appelle ça des bibliobox. Mais pirate box, moi j'aime bien parce qu'il y a un côté un peu provocateur. Mais je crois qu'on se rend bien compte que sur les échanges des produits culturels sur la planète, il y a un gros problème. Il y a un problème de droit, un problème de droit d'auteur, etc. Le droit d'auteur ne fonctionne plus. Ce qui existe en France n'est pas semblable aux États-Unis, etc. Il faut vraiment une réflexion. Et là, ce n'est pas les bibliothécaires qui vont s'occuper de ça. C'est les juristes et après, c'est les hommes politiques et puis le législateur. Voilà. Mais nous, on a un rôle d'expliquer ces nouveaux usages, de présenter. Non, vous n'êtes pas des voleurs quand vous copiez des choses pour vous, pour votre usage personnel. Voilà. Ça, je pense que la bibliothèque, elle a aussi ce rôle-là d'être facilitateur, quelqu'un qui produit ça aussi. Hein. Donc, il faut être. C'est peut-être comme ça aussi qu'on renouvelle aussi nos images, c'est-à-dire de. On a l'impression que des fois, quand on nous entend les bibliothécaires dans les journées d'études, on est toujours à la poursuite du modèle idéal. En fait, je pense pas qu'il y ait de modèle idéal. Hein. Il y a des expérimentations, il y a des choses qu'on doit faire. Voilà, je m'arrête là.
Moi, j'avais juste une petite question aux membres de la table ronde, parce que je pense notamment sur la question des usages, la modification des usages dans les équipes des médiathèques, l'événement Bibliomix, est-ce que c'est quelque chose que peut-être autour de la table vous avez déjà essayé, mis en place? Donc Bibliomix, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu comme Muséomix. Donc c'est en fait, on invite pendant un temps donné des graphistes, des designers qui vont aider à retravailler la façon dont on utilise une bibliothèque. Ils vont imaginer, peut-être avec les équipes des bibliothèques, hein, ils ne le font pas seuls, d'autres manières d'approcher les publics, d'autres manières de répondre aux besoins, et notamment, ils jouent beaucoup sur la question du numérique. Donc c'est un format, et au bout de cette semaine d'expérimentation, on teste les choses avec le public, et du coup, ça peut faire évoluer aussi certains usages qu'on a au cœur des équipes. Je ne sais pas si peut-être il y a des témoignages.
Non, mais j'aimerais bien rebondir parce que je rêve d'organiser un bibliomix à la médiathèque. Et en fait, on parlait des partenariats. Et pour l'instant, je n'ai rien organisé. Je suis encore avec cette envie, mais je ne me sens pas capable, seule, de mettre en place. J'y ai réfléchi. Mais j'ai laissé tomber pour l'instant et je regrette. Je suis à Guebwiller, c'est à une centaine de kilomètres. Mais c'est vrai que si je pouvais trouver un partenariat me permettant d'organiser cela, j'en serais ravie. Mais c'est un indispensable pour moi.
Alors, nous, on ne l'a pas testé non plus, mais la ville de Rennes l'a fait, la bibliothèque de Rennes, et Ils l'ont fait plusieurs fois et il y a deux ou trois actions qui ont été mises en place. C'est-à-dire que non seulement ils ont testé le concept, mais ça a débouché sur des résultats. Et je crois que la bibliothèque de Brest l'a fait aussi, mais je ne sais pas si ça, jusqu'où ils sont allés. Mais en tout cas, à Rennes, voilà.
En fait, il y a trois exemples connus en France pour l'instant, qui sont effectivement Rennes et Brest et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je fais juste une petite incise pour vous annoncer que la prochaine journée d'études Bibliothèque dans la Cité abordera notamment cette question-là des biblioremix. Je pense que là, on est à peu près à 15 minutes de la fin de la table ronde, donc j'ai envie de passer la parole à la salle. Tu voulais dire encore quelque chose ?
Oui, mais je voudrais quand même apporter une ombre un peu plus noire sur ce tableau. C'est que pour moi, la plus grande, la plus grande limite qu'on rencontre, ce sont les limites techniques. Et que je pense que vous y êtes tous confrontés. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué parce que nous utilisons des outils qui sont faits pour des usages individuels et nous essayons de les utiliser pour des usages collectifs, donc c'est compliqué. Et les partenaires, les sociétés prestataires avec qui on travaille ont évolué beaucoup moins vite que nous et ne sont pas en mesure de nous apporter l'aide dont nous avons besoin. Par exemple, nous, sur notre portail, pour réaliser le portail tel que nous l'avons mis dans le cahier des charges, la société n'y arrive pas. Et là, ils sont en train de nous dire qu'il faut 200 jours de développement pour y arriver. Et comme ils n'ont pas de force de travail, c'est 2 ans de travail. On ne va pas attendre 2 ans pour faire évoluer le portail. Donc, je pense que je ne sais pas comment on pourrait travailler tous ensemble. Mais je pense que chaque bibliothèque galère dans son coin avec ses problèmes techniques, avec ses fournisseurs qui n'y arrivent, qui ne savent pas faire, etc. Et c'est peut-être un rôle, alors je ne sais pas à quel niveau, mais moi je plaide beaucoup pour qu'il y ait un regroupement de bibliothèques et qu'on fasse poids sur voilà, les prestataires avec qui on travaille, parce qu'on représente beaucoup d'argent tous réunis, mais on est éparpillés et on ne fait pas le poids. Donc voilà, ça c'est... Je pense que ça nous freine énormément dans nos envies et les attentes des habitants.
Un petit complément de Franck et puis ensuite préparez vos questions.
Ouais, juste une information mais qui va vous être utile. Je pense que certains vous connaissent déjà. En fait, le groupe Hybride, il a décidé de mourir il y a un an parce qu'on ne voulait pas devenir une structure associative. Et en fait, on s'est réparti sur 3 pages Facebook. Donc il y a une page Facebook tablette en bibliothèque, il y a une page Facebook jeux vidéo en bibliothèque et il y a une page Facebook Fab Lab et Makers. Voilà, que nous animons en fait. Mais en fait, maintenant, on ne s'appelle plus Hybride, on ne veut plus apparaître comme ça. Et en fait, ça peut être aussi une réponse pour... C'est important de partager, parce qu'il nous manque des fois des lieux pour échanger. Et ce qui a été intéressant avec l'expérience Hybride, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on était parfois un petit peu isolés dans les bibliothèques un peu à droite à gauche, et que l'idée, ça a été de se rassembler, et de se connaître et de se parler. Et voilà, il y a un site aussi qui s'appelle Bibliopédia, je pense que vous connaissez, où il y a des échanges d'expériences. Voilà, il faut vraiment qu'on travaille avec ces outils.
Alors, questions, réactions, commentaires ?
Oui, donc une question toujours finalement autour des limites. Donc effectivement, on évoquait tout à la fin les limites techniques. Lors des échanges, j'ai eu une interrogation sur les limites administratives aussi, mais cette fois-ci plus autour du statut des personnes qui ont été évoquées tout au long de la journée, donc des personnes qui interviennent avec des compétences en bibliothèque. Quel est leur statut, puisqu'on connaît le statut de bénévole en bibliothèque, notamment dans les BDP, mais c'est un statut, c'est-à-dire qu'il a une existence juridique et administrative. Mais quelle est l'existence, on va dire, juridique et administrative de ces personnes dans le fonctionnement d'une bibliothèque? Parce que là, on va dire qu'on glisse quand même dans du fonctionnement, quoi. Donc c'est... Ou alors on continue à les considérer comme des usagers, on va dire, autour d'outils qui sont mis à leur disposition.
Oui, bonne question. C'est des usagers qui interviennent dans la bibliothèque.
Moi, ce qui me...
Juste compléter.
Alors, si on devait faire, je sais pas, un contrat, une convention, je pense que ce serait une manière de tuer. Voilà, c'est une expérimentation. C'est-à-dire, du jour au lendemain, la personne elle est malade, et ben on arrête. Ou elle a pas envie, elle arrête. Voilà, c'est une expérimentation. Il faut accepter ça. Tous les projets qu'on mène depuis 2008 à la médiathèque de Quimperlé, j'ai toujours présenté ça comme des expérimentations. Voilà. Je demande qu'on surveille, qu'on me suive, qu'on m'interdise s'il faut, mais je ne vais pas faire un dossier, parce que non, ce n'est pas, c'est pas la démarche. Hein. Sinon, ce n'est pas la peine.
C'était... Ça fait... Je pense que c'est la grosse différence, et ce n'est pas neutre si c'est vous qui posez la question, entre les petites bibliothèques et les grosses structures. C'est sûr que nous, au niveau administratif, on est bridés de partout aussi, parce que notre service informatique, il refuserait, enfin, c'est même pas envisageable que j'aille me brancher chez la fleuriste, quoi. Là, je suis mise à pied demain, quoi. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il y a une liberté, et on le voit bien avec Gabe Villers ou Quimperlé, il doit y avoir un grand bonheur à travailler dans des petites structures aussi.
Alors, c'est la revanche des années 90, parce que, moi, quand j'ai commencé à travailler, je regardais, mais alors vraiment avec envie, les grandes bibliothèques. Je me disais, mais elles ont des moyens, elles ont des tours à CD-ROM. Moi, je n'avais pas de tours à CD-ROM. Et finalement, avec le web 2.0, c'est vrai que c'est un plaisir de travailler dans des équipements, alors petits, on va dire moyens, hein, c'est 1700 m² quand même. Mais c'est vrai que, voilà, c'est un grand plaisir. Ah,
une réaction de Géraldine, et puis une question là-bas, hein, je crois.
Bah oui, juste une réaction. Enfin, je pense que vous êtes victime de votre propre succès. Enfin, je pense qu'un des grands atouts des médiathèques et des bibliothèques, c'est que le public peut faire ce qu'il veut. Il n'est pas contraint, comme dans un spectacle ou autre, de suivre un parcours tracé. Il peut juste être là et il crée ses propres usages. Et ça, c'est des usages qu'il crée au sein de la médiathèque qu'il ne faut pas trop codifier, parce qu'effectivement, sinon, ils disparaissent. Quelque part, vous êtes les nouvelles maisons de la culture, n'est-ce pas?
Question. En fait, je suis Béatrice Pagnot, je travaille à la médiathèque de Dell. Et je voulais intervenir, mais c'était plus une réflexion générale par rapport à tout ce qui s'est dit aujourd'hui, et notamment cette dernière réflexion par rapport à cette participation. Alors déjà, moi, j'ai beaucoup de problèmes quand j'entends encore régulièrement aujourd'hui entendre dire les usagers. Et je me dis, on parle toujours de public, d'usagers, mais en fait, c'est des habitants, quoi. Je pense que tout simplement, on s'adresse à un territoire donné avec des habitants dessus. Et je pense que c'est aussi une autre façon d'appréhender nos missions que de dire les habitants. Parce que c'est fini, les gens, ils ne sont plus dans des cases. Et enfin, voilà, c'était quelque chose que je voulais souligner. Et puis sinon, ce que je me dis aussi, c'est que finalement, toute cette question qu'on se pose sur le numérique, c'est comme depuis longtemps, ça réinterroge vraiment, je pense, le positionnement de la médiathèque et puis en fait finalement son cœur de mission, parce que quand vous parliez tout à l'heure de la question de la formation, presque un petit peu, c'est un gros mot de faire de la formation, enfin j'accentue volontairement, mais c'est vrai que ça me surprend toujours, parce que dans les missions essentielles quand même de la bibliothèque publique, on a quand même une mission de formation qui est capitale. Donc je me dis, après, c'est pas d'accès à l'information, et on parle de citoyenneté sans arrêt, et je me dis peut-être que aussi, à un moment donné, on a une restriction de moyens, on est tous dans ces conditions-là, se dire que, en fait, potentiellement, les habitants, c'est aussi une ressource, quoi. Et la culture, au sens large, c'est ça, c'est qu'est-ce que chacun porte en lui, comme savoir, on parlait de sens tout à l'heure. Et voilà, je me dis peut-être que ça serait vraiment intéressant à un moment donné de se dire les nouvelles technologies, ça fait 20 ans qu'elles sont là, je pense, à peu près. Et du coup, elles sont plus nouvelles. Et peut-être qu'il faudrait se dire, finalement, j'ai des gens autour de moi qui savent faire des choses, alors qui ne sont pas forcément prêts à s'investir, hein, je suis bien d'accord avec ça, mais comment est-ce que je valorise ces talents individuels, et puis comment dans la bibliothèque, c'est le lieu de réunion de tous ces talents, tout simplement parce que on n'est plus prescripteur, ça fait longtemps qu'on n'a plus la légitimité, donc voilà, c'était...
Je veux juste faire une petite remarque par rapport à ça. Il y a un bouquin très intéressant sur ce sujet de Patrice Flichy, Le sacre de l'amateur, je vous le conseille vivement. Ce qui justement remet en question, il démontre comment le numérique repositionne le curseur entre professionnel, expert et amateur. Et le numérique redonne aussi finalement une légitimité, il remet dans un rapport assez horizontal l'amateur au sens d'aimer vraiment quelque chose, avoir une passion, et celui de l'expert et du professionnel.
Oui. Moi, vous avez tout à fait raison. En termes de vocabulaire, de parler, c'est vrai qu'on parle par faiblesse d'usagers, de public, etc. Mais les habitants, il y a aussi les internautes. Maintenant, moi, je parle de communauté agissante. J'utilise ce terme, ça va devenir obsessionnel, en fait. Mais en fait, les médiathèques, moi, je pense qu'on n'en est pas encore au niveau de la co-construction. Dans les médiathèques. Alors, il y a des expérimentations à droite à gauche. Jeudi dernier, on a vu les expériences de Biblioremix. Catherine Viard-Masson nous a fait venir Benoît Valory, qui travaille à la BDP autour de Rennes. Et je crois qu'on n'en est pas encore là. Et je crois que les médiathèques aussi, bon, elles sont victimes de leur succès, comme tu dis. Elles sont aussi, parce qu'on se questionne beaucoup avec ma collègue de l'Action culturelle, Francine Hegel, sur le fait qu'on est très sollicité en permanence, etc. Donc, il y a aussi des demandes très fortes. Et des fois, on a des personnes, on ne sait pas forcément ce qu'elles vont nous proposer. Donc, il faut qu'on invente des dispositifs, pour, comme vous avez fait à Quimperlé, mais c'est peut-être plus facile dans une toute petite commune. On arrive tout de suite à voir. Mais on peut être... moi, j'étais dans une autre... Je ne dis pas ça de manière méprisante. Hein, je connais un peu le sujet. Mais souvent, on est un peu embêté par, je veux dire, les poètes locaux, les peintres locaux, les expositions locaux. Et après, la convention, c'est quand même, ça reste quand même le mode pour nous sécuriser aussi. Alors après, il faut qu'on arrive à des dispositifs peut-être plus ouverts, hein, les ateliers collaboratifs, etc. Mais je crois qu'on en, enfin, moi, je ne crois pas qu'on en soit déjà à ce niveau-là, hein, par rapport à ça. Je ne sais pas si tu veux rajouter.
C'est vrai que j'avais utilisé ce terme, mais en fait, d'une manière très modeste, qui signifiait juste être à l'écoute des demandes des usagers et en tenir compte.
Sinon, le rôle de la formation, pour moi, il est évidemment central. Et voilà, donc le projet qu'on va mener en 2015 et pendant 3 ans, 2015-2018, il va s'appeler Devenir contributeur sur les médiathèques de Strasbourg. Et l'idée, c'est qu'à terme, potentiellement, tous les collègues du réseau vont pouvoir connaître les outils, se les approprier de manière critique, hein, avoir... qu'est-ce que je fais avec Facebook, qu'est-ce que je fais avec Twitter, qu'est-ce que je fais avec Instagram, Pinterest, tous ces outils, c'est des gadgets ou pas? Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que ces outils, je les utilise pour, dans un projet d'action culturelle quelconque, et on ne va pas forcément dire qu'on fait du numérique, on va utiliser ce moyen-là, cet outil-là, pour faire quelque chose. Là, par exemple, on travaille sur, avec Géraldine, on collabore sur un projet qui s'appelle le Norn.fr. Le Norn.fr, c'est deux écrivains de science-fiction qui s'appellent Léo Henrys, un Strasbourgeois, et Luvan, elle est bruxelloise, qui ont décidé d'interroger la manière de raconter des histoires. Ils sont tous les deux écrivains, ils écrivent des livres imprimés, ils sont dans des grandes collections, ils commencent à être connus. Comment ils interrogent aujourd'hui un auteur d'aujourd'hui, comment il raconte une histoire vers les publics. Et ça, je trouve que c'est intéressant que la bibliothèque, elle monte ce travail, parce que souvent on parle du livre numérique de manière extrêmement négative, hein, toujours, voilà. Et là, on est en train de travailler sur... y a un feuilleton, hein, vous irez voir, le Norn.fr, c'est un épisode, c'est des feuilletons qui paraissent tous les trois semaines le vendredi. Et en fait, Léo Henry et Luvan, en fait, jouent sur... Ils ne vont pas forcément faire du multimédia gadget, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément mettre des images ou mettre du son, etc. Il n'y en a pas, d'ailleurs. Ils n'en mettent pas. Et en fait, ils travaillent juste avec les codes du web. Ils essaient de raconter... une histoire d'une autre manière, voilà. Moi, je trouve que c'est des choses extrêmement intéressantes, ça. Parce que du coup, on n'a pas à se poser la question de savoir si c'est juste un gadget technologique. C'est le cours du temps. Il y a des auteurs aujourd'hui qui commencent à écrire avec cette méthode-là. Et j'aime bien, moi, toujours, je répète ce que dit Léo Henry sur le livre numérique. Pour lui, un livre numérique, c'est un livre qu'on ne peut pas imprimer sans en perdre une facette. Voilà. Et voilà. Alors, il y aura bien évidemment des livres homothétiques, des livres qui sont exactement les mêmes, des PDF, des e-pub, etc., tout ce que vous voulez. Mais j'aime bien cette démarche. Et les artistes, les auteurs, c'est ces gens-là dont on fait la promotion dans les médiathèques. On donne accès. Voilà. Et se donner accès, pour moi, c'est super important.
Alors une dernière réaction, question là peut-être avant.
Oui, qui rencontre un peu ce que tu viens de dire. Moi, je me pose toujours la question. Je trouve qu'on n'explore pas, nous professionnels des bibliothèques, l'internet, la richesse de l'internet et du coup la remontée de contenu qu'on pourrait mettre en avant, qu'on pourrait travailler. On est très fort sur les collections. Mais on ne voit pas du tout l'Internet comme une mine de ressources. Enfin, je pense qu'on le voit, mais je pense qu'on n'ose pas aborder. On est vraiment sur l'écume. Et du coup, on n'en fait pas grand-chose. Enfin, y a des organismes qui répondent. On a des Sésame, on a des documentalistes, pour mettre un nom sur la fonction, dans les grandes structures, mais je trouve qu'on ne travaille pas du tout ça, ce volet-là. Et du coup, sur le livre numérique, par exemple, c'est un exemple. Travailler ces territoires un peu comme si on n'osait pas. Voilà. C'est une question que je me pose, hein, je n'ai pas la réponse.
Je crois qu'on est quand même tous issus de la conservation et du patrimoine, nos titres de métiers le disent, et on a du mal à passer à une collection qui ne nous appartient pas. Et l'Internet, ce sont des contenus virtuels, et ce n'est pas ma collection, et ça, il y a du boulot.
Bien, je crois qu'il faut clore cette table ronde. Merci beaucoup à tous les participants.